toujours immensément fidèles à Radio Galère et à nos horaires des carnets de Comaguerre, nous nous retrouvons ce mardi à 15h avec toute l'équipe de Comaguerre. Donc Roselyne, bonjour. Habib, bonjour. Et Sidi, alors qui ne fait pas partie.
Il est bonjour. Venu,
c'est l'équipe de Radio Galère en général, mais on l'inclut dans nos amis à nous, nos amis de Comaguerre. Avec, on a une longue pratique commune des après-midi, des soirées, etc. dans les studios de Radio Galère. Bon. On va commencer par des petites nouvelles pour aller ensuite à des plus grosses, mais des petites qui sont instructives. Vous savez qu'il y a eu toute une série de sommets, je vais y revenir, ça va être un peu le journal de tous les sommets qui se sont succédés les uns après les autres, au point qu'on se demande si ceux qui ont assisté à tout, pas assisté à tout, mais qui ont fait un saut ici, un saut là et tout, comme certains présidents de la République, ne sont pas un peu fatigués. Parce que c'est vrai que c'était extrêmement chargé. Alors je vais commencer par un sommet dont on a peu parlé, parce que dans la masse des événements internationaux, il est passé un peu plus inaperçu. C'est le sommet de la francophonie qui s'est tenu à Djerba.
Djerba, ouais.
Alors je ne vais pas beaucoup m'arrêter là-dessus, mais ça a été l'occasion d'évoquer, c'est l'occasion plutôt d'évoquer un sujet dont on aurait pu parler les autres semaines, mais qui prend de l'acuité, c'est-à-dire les relations très compliquées entre le Rwanda, petit, tout petit, vous savez que c'est tout petit, le Rwanda, et son immense voisin qui s'appelle la République démocratique du Congo.
Congo.
Voilà. Alors ces deux pays, qui sont de taille très inégale, sont, alors, le Congo, c'est le deuxième plus grand pays d'Afrique, avec d'immenses ressources, 110 millions d'habitants aujourd'hui. Bon. Et il y a une zone de frottement, j'allais dire, entre ces deux pays, qui date pas d'hier, qui est liée à l'organisation territoriale du Congo et à son immensité, qui est la zone qu'on appelle la zone du Kivu. Donc c'est les deux provinces qui sont dans le coin nord-est de la République démocratique du Congo et qui touchent au Rwanda un petit peu, à l'Ouganda par ailleurs, et aussi le troisième pays, donc le Burundi. Bon. Et qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Ben, la donnée centrale de cette situation, la première donnée qui est de type administratif, c'est que le Congo est tellement grand et tellement pauvre comparativement à la capacité énorme qu'il a de produire des richesses pour les autres, hein, puisque c'est bien ça le fond du problème. On a un pays dont la richesse potentielle est fabuleuse, mais elle est tellement fabuleuse qu'il n'a jamais pour l'instant réussi à mettre la main dessus ou à maîtriser cette richesse. Bon. Donc je renvoie pour mémoire à l'épisode donc, de Lumumba et puis de son successeur, hein, Mobutu, vous savez tout ça. Bon. Et depuis le départ de Mobutu, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Il y a eu plusieurs changements avec les deux Kabila, père et fils, puis maintenant Tshisekedi qui a été élu. Mais la difficulté centrale pour l'État congolais, dont la capitale est à l'extrême ouest du pays, à Kinshasa, et de maîtriser la totalité de son territoire. C'est-à-dire qu'il y a souvent, il manque simplement des routes pour aller à des endroits pareils. Il manque des locaux pour installer l'administration centrale, etc. Bon. Tout ça fait que cette zone-là peut donner lieu à des convoitises. Et ce n'est pas faute d'en avoir. Bon. Alors, quelles sont les convoitises? Bon, elles sont extrêmement simples. Des richesses minières considérables, concentrées donc dans ce secteur nord ou est de la République démocratique du Congo. Alors, il y en a d'autres. Le cuivre, par exemple, n'est pas concentré à cet endroit-là. Il est concentré au Katanga, qui est tout au sud de la République du Congo. Mais là, la richesse extraordinaire qui est liée au succès de la téléphonie portable, c'est le coltan. Donc un mélange de cobalt et de tantal, deux métaux naturels, voilà, qui sert de base à pratiquement toutes les puces qu'il y a dans tous les téléphones portables du monde. Entre autres, parce que vous savez déjà qu'il y a aujourd'hui plus de téléphones portables en circulation que d'habitants sur la planète. Donc on est à la dizaine de milliards, voire plus, de téléphones portables. Donc chacun a une puce et dans chacun, il y a un petit morceau de la richesse congolaise, mais dont le Congo ne profite pas. C'est là qu'est le cœur du problème. Le Congo ne profite pas parce que, d'une part, l'État congolais a de la peine à s'installer, à avoir une administration, à encadrer cette zone-là du pays, et surtout qu'il y a des convoitises sur cette richesse considérable qui sont exercées par les voisins que j'ai cités, donc en particulier le Rwanda. Et donc la tension est montée, c'est depuis que Tshisekedi a été élu, la tension est montée entre les deux pays, carrément le Congo accusant le Rwanda de venir piller chez lui. Alors effectivement, la réponse officielle diplomatique du Rwanda, c'est de dire « Non, non, moi, il n'y a pas de soldats chez moi, il n'y a pas de compagnie minière rwandaise et tout. » Non, alors effectivement, c'est très facile. Comme le Rwanda a de l'argent, eh bien, le Rwanda suscite des milices. Et dans des zones extrêmement pauvres, qui ont été en plus ravagées par les suites de la guerre rwandaise, hein, puisqu'ils sont réfugiés des Hutus, tout ça. Bon, dans ces zones-là, celui qui a un peu d'argent, et il en a, le Rwanda, celui peut acheter des milices qui défendent ses intérêts indirectement. Même si elles se proclament indépendantistes, si et ça et tout, de fait, c'est l'intérêt du Rwanda qu'il y ait des mouvements de rébellion contre le pouvoir de Kinshasa. Le mouvement actuel s'appelle, il y a un nom générique qui s'appelle le M23. Hein. Ça va, ça vient, ça fluctue, les effectifs sont mobiles, mais il est clair que l'existence de cette rébellion contre le pouvoir de Kinshasa, qui est peut-être constituée à 90% de citoyens congolais, mais en fait profite et est financée et soutenue par le Rwanda. Et pourquoi ? Parce que c'est l'existence de cette milice qui empêche l'État congolais de prendre la maîtrise de ses ressources sur son sol, donc du fameux coltan, et ça permet effectivement à des trafiquants qui sont protégés par le M23 d'aller emporter le coltan sous forme minerai par petits avions, je sais comme ça.
Au Taïwan.
Non, directement d'abord au Rwanda, et de là le Rwanda l'exporte dans le monde entier, et il a comme clients les plus grosses compagnies de téléphonie internationale. Bon, on les connaît. Bon. Et la réponse, alors, le Rwanda a beau dire que ce n'est pas vrai, simplement, le Rwanda est un très gros exportateur de coltan, et il n'y en a pas chez lui. Donc ça veut dire que c'est bien le produit d'une rapine. Hein. Le Rwanda est un voleur. Voilà. Ouais. Bon, c'est tout à fait clair. Bon. Et donc, le gouvernement congolais essaye de dire que ce n'est pas normal ce qui se passe là, et là, ça commence à devenir une affaire internationale. Et c'est de ça que je voulais parler, puisque ça a été évoqué donc, au sommet de la francophonie, puisque les deux s'y retrouvaient. Alors c'était un peu paradoxal, puisqu'en fait, vous savez que le sommet de la francophonie est organisé par l'Organisation de la francophonie, dont la secrétaire générale est une Rwandaise qui s'appelle Louise Mushikiwabo, qui a été, en son temps, ministre des Affaires étrangères de M. Kagame, président du Rwanda, et qui, en fait, défend la francophonie tout en parlant constamment anglais, puisque de toute façon, depuis un certain nombre d'années, l'anglais est devenu la langue officielle du Rwanda. C'était le français avant, puisque le Rwanda était, on le sait, une ancienne colonie belge.
Elle vient d'être réélue
voilà.
À ce poste.
Oui, voilà, parce que pour la France, au moins, c'est une affaire, puisqu'en fait, elle défend la francophonie, mais elle défend surtout les intérêts d'autres personnes, et en partie de son gouvernement. Alors les suites. Les suites, ça commence à irriter un certain nombre de gens. D'une part, le gouvernement congolais est très fâché de la tournure de ces événements, de l'espèce de dénégation de Rwanda, de dire « moi, j'y suis pour rien », ce qui n'est évidemment pas vrai. Et les Africains commencent à prendre leurs affaires en main. Et là, ça devient très, très intéressant parce qu'on a une décision, il y a une organisation régionale des pays de l'Est de l'Afrique qui a décidé non pas d'aller maintenir la paix. Alors, je livre le propos parce que la proposition qui a été faite par le nouveau président kényan, qui a été élu l'année dernière, c'est de dire « Non, nous allons envoyer une force africaine, non pas pour maintenir la paix, parce que l'ONU fait ça à longueur d'année et il se passe rien, nous allons envoyer une force pour imposer la paix ». Vous voyez que le changement d'un verbe à l'autre, de maintenir la paix, qui se donne bonne conscience, c'est-à-dire, ah ben, l'ONU a envoyé des casques bleus, donc ça devrait se calmer, et en fait, ça ne se calme pas. Et donc, l'expérience acquise pour qui observe le travail des casques bleus, au moins à cet endroit-là du monde, c'est de dire que l'ONU ne maintient rien du tout. Hein, et que les milices prolifèrent, et que les trafics de minerais prolifèrent, les trafics d'armes prolifèrent, etc. Et donc le fait qu'un certain nombre de pays, Kenya en tête, le Kenya qui est un des pays pour l'instant les plus solides économiquement de cette région-là du monde, disent maintenant on ne va pas continuer à maintenir la paix, entre guillemets, avec cette espèce d'hypocrisie en disant on prend parti contre personne, etc. On va imposer la paix. Et ça, ça devient important, mais ça veut dire que ça a le soutien de l'Afrique du Sud, ça a le soutien du Mozambique, ça a le soutien des pays de cette région-là. Et ça veut dire que on a... Alors là aussi, c'est un langage africain auquel on n'était pas habitué, qui est complètement nouveau. C'est-à-dire, ça se passe en Afrique, c'est un conflit entre deux pays africains, et donc c'est aux Africains de dire « on va imposer des règles, et on ne va pas tuer quiconque, on ne va pas bombarder, on va imposer la paix ». C'est-à-dire qu'il faudra arrêter de dire qu'on observe et puis on dit qu'il y a des torts partagés et on n'avance pas. Ça, c'est un grand, là, ça a l'air de rien.
C'est une bonne nouvelle.
Ce changement de vocabulaire, vous remplacez, regardez comme la politique, c'est subtil et en même temps pas subtil. C'est-à-dire, il suffit de changer un verbe pour que la face d'un conflit change. C'est-à-dire, vous passez du verbe maintenir la paix, avec toutes ces ambiguïtés, tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord pour maintenir la paix, pourvu que ses intérêts soient défendus, hein. Imposer la paix avec un certain nombre de pays qui ont une armée qui disent « on va faire ce qu'il faut et vous allez voir ce que vous allez voir », c'est un langage, au moins africain, complètement nouveau. Hein. Et je le salue en tant que tel. Voilà. C'était tout ce qu'il y avait à dire sur la francophonie, il y aurait peut-être beaucoup de choses, mais ça me paraissait un point central.
Très important.
Alors, le président de la République française fait un saut, est passé par là par hasard en revenant de Bali, de Sharm el-Sheikh, je ne sais pas où, hein, dans ses tribulations. Je ne sais pas ce qu'il y a fait, peu importe. Il a certainement entendu le message, hein, parce qu'il s'adresse à lui comme aux autres occidentaux, mais à lui en particulier, hein, qui a tendance à dire « oui, je vais manier d'or, il ne maintient plus rien puisqu'il est parti, il est parti du Mali bon. ». Et qui va probablement partir assez vite du Burkina. Enfin, c'est ce que demandent les Burkinabés. Ça, c'était le premier dossier. Le deuxième dossier, petit encore relativement, c'est un dossier concernant l'organisation de la sécurité collective en Europe. Alors, c'est moins connu. C'est une organisation internationale qui a été établie après ce qu'on a appelé les accords d'Helsinki de 1975, qui étaient donc des accords signés à l'époque, et c'était important, par l'URSS et par les États-Unis, et par ceux qui ont suivi les États-Unis, bien entendu, derrière, les Européens, pour dire qu'il fallait sécurité collective, c'est-à-dire trouver des modus vivendi, une façon de vivre côte à côte dans cette Europe qui était encore divisée, puisqu'il y avait d'un côté des régimes socialistes de l'Europe de l'Est, et puis de l'autre côté l'Union européenne, les États-Unis et le Canada, mais trouver un autre arrangement, sortir un peu du climat de guerre froide. Et donc il s'est mis sur pied une organisation qui existe toujours, qui s'appelle l'Organisation pour la sécurité collective en Europe, dont le nom est hérité du traité d'Helsinki de 1975. Bon. Cette organisation a trouvé sa place, mais elle a surtout trouvé sa place à partir de 1990. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en 1990, l'URSS disparaissant, elle s'est trouvée avoir une autre vocation. Et là, il a été signé à ce moment-là une charte de Paris sur la sécurité collective en Europe qui a donné plus de moyens, qui a donné de l'importance à cette structure. Mais c'est là que le bât blesse, qui lui a donné une importance qui n'a pas plu à tous ses membres. Alors, il faut rappeler quand même que cette OSCE regroupe 57 États. Alors, il y a tous les États européens, donc Russie, comprise de l'époque, hein, Russie, Biélorussie, Ukraine, etc., jusqu'à l'extrême ouest, plus deux invités qui sont là, on les a trouvés par hasard le jour de la conférence, on leur a dit « venez boire un café », c'est un peu ça, hein, qui s'appellent les États-Unis d'Amérique et le Canada. Donc comme quoi, c'est reconnaître que la sécurité en Europe ne peut pas se faire sans que les États-Unis et le Canada soient satisfaits de ce qui se passe en Europe. Ça en dit long, déjà, en soi. Hein, parce qu'on devrait normalement dire l'Organisation pour la sécurité collective en Europe, ça s'organise entre Européens, point à la ligne. Et déjà, 57 États, moins 2, il n'y en aurait plus que 55, ça fait beaucoup de monde. Alors des grands, des petits, mais la Russie, la France, l'Allemagne, et puis l'Azerbaïdjan, l'Arménie, enfin, beaucoup, beaucoup de monde. Les pays baltes, ouais, bon. Alors ce qui se passe, c'est que cette OSCE, une fois qu'elle a pris du poids, puisqu'elle devenait une organisation importante, elle a embauché beaucoup de personnel, et elle s'est mise à s'occuper de la sécurité collective en Europe. C'est pas tout à fait par hasard de ce fait qu'elle ait été amenée à s'occuper de la guerre civile que le gouvernement d'Ukraine, à partir du printemps 2014, menait contre les populations du Donbass. Et donc il y avait plusieurs centaines d'observateurs de l'OSCE qui étaient là, j'allais dire, pour essayer de s'interposer, hein, sécurité collective. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compté les points et on leur doit, merci, c'est très gentil, d'avoir estimé le nombre de morts dans la population du Donbass créée par les tirs de l'armée ukrainienne, mais au-delà, ils n'ont pas fait grand-chose. On pourrait dire qu'ils ont été un peu faibles, un peu négligents. C'est plus grave que ça, puisqu'il est établi désormais, et la Russie et la diplomatie russe ne s'est pas gênée pour le dire, que ces messieurs qui disposaient de systèmes d'observation, des caméras pointues, etc., pour observer ce qui se passait, pour observer y compris les cessez-le-feu qui avaient été signés accord de Minsk et qui n'était pas respecté, ces messieurs envoyaient le résultat de leurs caméras très très sensibles et à peu près partout directement à l'armée ukrainienne pour savoir où elle allait trouver des miliciens du Donbass armés. Donc là, on a une trahison évidente, une participation au crime de guerre qui est établie, c'est connu. Donc l'OSCE a filé un très très mauvais coton au Donbass, puisqu'elle a trahi ses objectifs. Alors vous imaginez que dans l'OSCE, comme il y avait... Alors l'OSCE, je le précise, a son siège à Vienne, en Autriche, et il y a en Autriche une très forte délégation des États-Unis à l'OSCE qui pilote ce genre d'opération et qui avait mis au point ce genre de procédure. C'est-à-dire que il y avait directement sur les écrans du Pentagone, via le bureau de Vienne, etc., directement aussi en Allemagne, en Angleterre et tout, les images de l'endroit où étaient les miliciens du Donbass pour que le lendemain matin, on puisse leur tirer dessus et les éliminer. Merci l'OSCE. Bon. Voilà. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de gens maintenant qui ont des doutes sur l'intérêt de l'OSCE, mais ça se complique du fait suivant, et ça se relie à une actualité beaucoup plus récente. Vous avez entendu dire, comme tout le monde, que la Russie, je mets les guillemets qui s'imposent, avait tiré un missile en Pologne, bon. Et qu'avait tué deux personnes dans une ferme. Bon. Alors, on peut s'étonner, mais effectivement, la zone des combats entre l'armée russe et l'armée ukrainienne, c'est à l'autre bout. Donc ça voudrait dire qu'ils ont tout d'un coup tiré, tourné le canon de 180 degrés et qu'ils ont fait une erreur. Bon, c'est assez peu plausible. Mais ça a été présenté comme tel. Et puis après, les doutes ont commencé à sortir. Peut-être un doute, ça pourrait être un missile ukrainien. Alors l'Ukraine a dit non, non, nous, certainement pas, c'est les Russes et tout. Mais quand même, ça a commencé à filtrer, du genre aux États-Unis. On peut avoir des doutes sur si et ça, pas plus. On n'a pas accusé clairement les Ukrainiens, mais on peut avoir des doutes. Mais ça a été repris, alors cette affirmation que c'est un missile russe qui est allé tirer sur la Pologne, on ne sait pas trop pourquoi, a des conséquences diplomatiques immédiates. Alors quelles sont-elles ? Alors, d'une part, effectivement, la Russie encore continue à être accusée de choses qu'elle n'a pas faites, mais la conséquence immédiate, que vous allez voir arriver la semaine prochaine, mais elle est déjà annoncée, c'est que la semaine prochaine se tient en Pologne un sommet de l'OSCE, bon, ce qui est une réunion normale, calée dans le calendrier de l'organisme. Mais à la suite de l'envoi du missile russe, je mets les guillemets qu'il faut, sur la ferme polonaise, le gouvernement polonais a dit « Je ne recevrai pas la délégation russe. Ils tirent sur nous. » Donc ils ont rompu les règles de l'accord sur la sécurité collective. Vous voyez ? Donc tout ça n'était pas du tout le fruit du hasard et d'une improvisation de M. Zelensky. C'était au contraire un coup monté pour mettre la Russie en accusation et surtout pour l'exclure de l'OSCE. Parce qu'elle sait maintenant trop de choses sur l'OSCE, sur ses trafics, sur sa malhonnêteté. Et donc on a une organisation internationale qui est... conduite par derrière par les États-Unis, qui est en train de se couvrir de honte et de ridicule. Et donc ça, c'est gênant dans le paysage. On ne peut pas dire l'OSCE, c'est bien, c'est la sécurité collective. Non, c'est un instrument aux mains des États-Unis pour maintenant accuser la Russie de tous les maux. Voilà. Alors, la sécurité de l'Europe, là-dedans, pèse pas très très lourd. C'est un jeu donc, qui se passe par-dessus l'Atlantique, qu'on connaît sur l'affaire ukrainienne. Mais là, je voulais souligner ça, c'est que tous les éléments servent pour dire « la Russie a tous les torts ». On a compris depuis longtemps, mais chaque fois, on se dit « ça va encore s'arrêter ». Ça ne s'arrête pas, puisque là, on a trouvé encore un cas. Et puis, les Ukrainiens, quand ils ont décidé de tirer ce missile sur la Pologne, savaient très très bien ce qui allait se passer, c'est-à-dire la mise à la porte de la Russie, de l'OSCE et des réunions statutaires de l'OSCE. C'était ça qu'ils cherchaient, évidemment. Ils ont réussi, puisque la Pologne est parfaitement contente de jouer ce rôle-là.
Bon. Oui. Et les rumeurs sont toujours plus fortes que la vérité.
Voilà. Ah, ouais. Ah, voilà. Et oui. Ah oui, et on va dire, la Russie, oui, l'opinion, ça veut dire, ah ben, la Russie l'a bien volé, elle tire sur la Pologne ne la reçoit pas. Bon. Simplement, le coup était monté, et ça a été vite fait dans le temps. C'est une affaire qui se joue sur une quinzaine. Hein. Le sommet de l'OSCE, c'est la semaine prochaine. Donc le missile ukrainien a été tiré juste au bon moment pour avoir les effets qu'on fait. Et maintenant, les vagues dénégations. Alors effectivement, aux États-Unis, ils savent très très bien. Ils font un peu les innocents, en disant « oui, c'est pas sûr, c'est pas très bien établi ». D'abord, ça a été établi. Alors quand même. Qui est à l'origine de cette annonce d'un missile russe ? C'est l'agence Associated Press, la grande agence de presse des États-Unis, qui ne cite pas ses sources, qui dit « selon un officiel du renseignement américain qui n'est pas nommé ».
Oui, oui.
Donc on peut, tous les mensonges sont permis. Hein. Et donc, il y a des gouvernements qui disent une dépêche de l'Associated Press qui n'est pas sourcée, dont on ne connaît pas l'auteur, enfin, qui n'a pas sa source, effectivement, on en fait une vérité historique de fond et on ne va pas chercher. On ne va pas chercher parce que si on cherche, effectivement, on trouve que c'est un coup monté.
Voilà. Et comme on a fait de nous des moutons, personne ne cherche à savoir la source.
Non, voilà. Ah non. Et tout le monde sait qu'effectivement, les agences de presse... Alors, je n'incrimine pas spécialement la Société de presse, parce que les trois grandes agences occidentales, je peux parler de la Société de presse Reuters, qui est britannique, et l'agence française, l'AFP, fonctionnent pareil. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les... Je vais loin de moi l'idée de dire que toutes les dépêches de l'AFP sont des faux. Mais dans des cas très, très sensibles, dans des cas stratégiques où il y a des intérêts d'État très, très forts, ces agences agissent pour le compte de la puissance qu'elles représentent. Alors on vous dira après, mais l'AFP, c'est un statut privé, etc. Oui, oui, bien sûr. Sauf qu'elle ne fonctionnerait pas s'il n'y avait pas aussi en son sein des gens des renseignements généraux, etc. Bon. Il faut le savoir. Quand vous pouvez aller dans un bureau régional de l'AFP, donner une information sur un conflit social pour qu'elle passe dans la presse, puisque vous savez que les sociétés de presse, les gens qui éditent des journaux, sont abonnés à ce qu'on appelle le fil AFP. C'est pareil pour AP, c'est pareil pour Reuters. Donc n'importe quel quotidien qui veut travailler s'abonne au fil AFP. Si dans le fil AFP, on annonce, je sais pas, une grève générale en France pour la semaine prochaine, tout le monde, tous les quotidiens l'auront. Mais si par contre, quand vous dépochez, vous, une annonce annonçant un petit conflit qui risque d'être intéressant et tout, et que l'AFP ne la diffuse pas parce que c'est de l'information sensible, eh bien votre information, personne ne l'aura. C'est tout. Alors, c'est subtil, c'est à peine subtil, mais il faut l'avoir pratiqué pour se rendre compte comment ça fonctionne. Et quand vous avez dans les locaux de l'AFP un fonctionnaire des renseignements généraux qui dit non, ça, il ne faut pas en parler. Hein, bon. On a eu un cas évoqué de la sorte par Victor Dédage quand il est venu à Marseille nous parler de Cuba, puisqu'il a mentionné qu'il existe en Angleterre un organisme qui est formé par les services de renseignement et les dirigeants de la presse, qui décide quelles informations doivent être minimisées. Alors, vous voyez, comme c'est subtil en disant, là, il y a un conflit, mais il faut faire quelques brefs dessus parce qu'on nous accusera de ne pas en avoir parlé alors que c'est important, mais il ne faut surtout pas que ça prenne de l'ampleur. Alors, mettez trois lignes en quatrième page, hein, donc on ne pourra pas nous accuser de ne pas avoir parlé de ce qui est un conflit important, mais surtout, ne le mettez pas à la une, ne mettez pas du gras sur les caractères, hein, n'en parlez le moins possible. Hein. Donc c'est encore plus subtil, mais ça, on voit la subtilité et les façons de pratiquer des services secrets britanniques, c'est-à-dire, il faut savoir doser le mensonge ou manipuler la vérité en disant qu'on ne l'a pas complètement étranglé, la vérité, on en laisse sortir juste un petit cri avant que la victime de l'étranglement s'étouffe en poussant des cris, on l'a laissé pousser un petit cri, mais pas plus. Il ne faut pas que ce soit un hurlement de colère. C'est juste un petit cri avant de mourir d'étouffement. Voilà comment fonctionnent les médias d'opinion. C'est bon à savoir. C'est pas encourageant, mais c'est bon à savoir. Et on remercie Radio Galère de nous permettre de pousser nos petits cris, comme dirait Brigitte Bardot.
C'est vrai.
On pousse nos petits cris. Mais poussons-les. Et on va continuer à le faire. Foi de Comaguerre. Bien. Alors... j'ai évoqué les petits sommets donc de l'OSCE qui va se terminer. Il y aura des accusations de la Russie, c'est fait pour ça, on n'en parle plus. Le sommet de la francophonie. Je vais vous parler d'un sommet dont on a un peu parlé, mais qui était noyé dans le G20 et dans tout ça. C'est la COP27. Alors j'avais évoqué la COP27 hein, dans une émission précédente pour dire qu'on n'attendait pas grand-chose comme résultat. En fait, il s'est passé... un événement qui n'est pas tellement lié, enfin c'est pas la COP27, c'est un événement politique qui s'est passé à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'à la COP27, qui était organisée, je le rappelle, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, donc dans le haut de la mer Rouge, qui était organisée avec soin d'ailleurs par le gouvernement égyptien, qui voulait en faire un sommet sur le climat qui se tienne pour la première fois dans un pays qui ne soit pas un pays riche de l'Occident. Ça, c'était aussi à noter. Hein. Et donc, il voulait en faire un endroit où on parlerait quand même des rapports des pays riches et des pays pauvres sur les questions du climat, sur les questions de la pollution. Et là, il s'est passé un événement assez intéressant. C'est-à-dire que les pays les moins riches, qui étaient là bien représentés, avec des chefs d'État qui étaient là, etc., ont commencé à dire « mais on en a assez d'être accusés, enfin d'être mis dans la barque du climat qui se dégrade, alors qu'on y est pour très très peu de choses, comparé aux grands pollueurs qui sont vous qui voulez qu'on prenne des mesures sur ci et sur ça tout le temps et tout, c'est vous qui polluez beaucoup. Les émetteurs de CO2, c'est principalement les puissances du G7, c'est eux, hein, les États-Unis numéro 2 mondial, et les 6 autres, c'est pareil. Donc quand on enlève des émissions de CO2, en particulier le G7, on arrive à une réalité beaucoup, beaucoup différente. Hein. Et donc, ils en ont assez, ces pays-là en avaient assez, et ils l'ont exprimé cette fois-ci à Sharm el-Sheikh, ils en avaient assez d'être inclus dans une responsabilité anonyme, générale, tout le monde est fautif, etc. Celui qui envoie une tonne de CO2 et celui qui envoie 1000 tonnes sont traités pareillement. On ne fait pas la différence. Bon, et là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont insisté pour qu'on fasse la différence. Mmh. Alors non seulement ils ont insisté, mais ils ont même imposé une décision. Alors ça a mis longtemps, puisqu'il a fallu plusieurs heures pour arriver à faire un communiqué final, mais ils ont imposé la mise en place d'un fonds d'aide des pays riches pour les pays pauvres pour lutter contre la pollution et les déchets qu'on déverse chez eux. Et ça, c'est une grande nouvelle, parce que, alors, il y avait bien la réponse occidentale du G7 a été dit, non, mais il y a déjà, on peut demander de l'argent à la Banque mondiale, on peut demander de l'argent ici, là, un peu à l'Union européenne et tout, de noyer le poisson en disant, débrouillez-vous, frappez à toutes les portes, vous verrez bien. Là, il y a un fonds qui est destiné, un fonds international, approvisionné par les pays principaux pollueurs pour lutter contre les dégâts de la pollution qui sont exportés. Hein, le CO2, le réchauffement de la planète, c'est pour tout le monde, hein, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Hein. Le fait que les pays riches occidentaux déversent les déchets qu'ils veulent cacher ou dont ils ne savent pas quoi faire chez les autres, on se souvient de la Somalie, on se souvient du cas en Côte d'Ivoire et tout. Voilà, c'est permanent. Hein. Bon, là les pays pauvres ont dit non, maintenant ça suffit, donc vous allez payer pour les saletés que vous faites, vous. Hein. C'est pas nous, hein. C'est pas le Burkina qui empuantit l'atmosphère de la France et de la Grande-Bretagne. Hein. Arrêtons ça. Et ça, c'est fini. Enfin, ça, c'est fini. Ça, c'est fini. C'est une victoire. C'est une victoire politique. Alors, bien entendu, on verra l'année prochaine, à la prochaine COP, qui sera la 28e, on verra bien si le fonds a été mis en place, s'il fonctionne, s'il y a suffisamment d'argent, parce que ça a été acté. Donc ça veut dire que les pays riches ont admis, parce qu'ils étaient acculés, ils avaient tout le monde leur montrait du doigt, et ils connaissent bien ces chiffres. Alors il y a une dernière manœuvre qui mérite d'être mentionnée, c'est que quand les pays occidentaux ont vu que ça tournait mal pour eux, c'est-à-dire qu'ils allaient être obligés de payer, de mettre la main à la poche, ils ont dit « Ah oui, mais la Chine est un gros pollueur ». Histoire de dire, on va essayer de séparer la Chine du reste des pays pauvres. Bon, la Chine, les pays pauvres ne se sont pas laissés faire. Hein, et ils ont dit, mais attendez, la Chine, oui, elle est un gros pollueur parce que c'est un gros industriel, mais le G7 pollue plus que la Chine. Donc on n'en veut pas. Et puis la Chine, par ailleurs, nous aide pour toute une série de choses, ce que vous ne faites pas, vous. Hein, bon. Et donc ça s'est arrêté là, et ça a débouché parce que l'Occident était coincé, il avait tout le monde contre lui, hein, a été obligé de voter le principe de ce fonds, donc de lutte contre la pollution des riches, des pauvres par les riches. Bon, hein, je résume, mais c'est tout à fait intéressant de le prendre pour ce que c'est. On jouait un rôle, alors j'insiste là-dessus, on jouait un rôle tout à fait important aussi dans cette évolution qui s'est passée en Afrique, donc en Égypte, les pays latino-américains. Qui ont formé, alors les pays américains étaient lourdement représentés, j'allais dire politiquement, puisqu'il y avait trois chefs d'État, le nouveau président colombien Gustavo Petro, Nicolas Maduro, le chef d'État vénézuélien, et Lula, qui vient d'être élu au Brésil et qui donc prend son poste le 1er janvier 2023. À eux trois, effectivement, ils ont très très bien su faire passer ce message qui concernait donc pas que l'Afrique, mais en disant, mais effectivement, ce qu'on sait, nous, et ça doit se savoir dans certains pays d'Amérique latine, et ils l'ont mis ça aussi sur la question de l'Amazonie. En disant, c'est bien joli, hein, vous nous dites que l'Amazonie, c'est un poumon d'oxygène pour la population mondiale entière, et vous envoyez des gens pour raser la forêt. Hein. avec l'aide de Bolsonaro au passage. Bon. Et donc ça ne va pas non plus. Hein. C'est vous qui organisez, c'est vous qui nous obligez à faire des cultures qui ne sont pas des cultures nourricières pour nous, mais des cultures pour nourrir votre bétail, etc. etc. Donc on a là aussi un renversement du discours et un renversement de la perspective, c'est-à-dire les pays... Je simplifie en disant les pays pauvres. Les pays moins riches disent aux pays riches, mais votre responsabilité, on la reconnaît. Ne nous mettez pas tous dans le même sac. C'est trop facile de dire la planète ceci, la pollution cela, etc. et de ne pas dire qui pollue. Je rejoins indirectement le discours que je tenais la semaine dernière en disant l'anthropocène, c'est les hommes qui sont indisciplinés, qui font des bêtises et tout. Non, il y a un régime politique aujourd'hui qui fonctionne sur l'ensemble, qui domine la planète, qui lui ne s'arrête pas à ces questions de pollution et fait avancer ses profits. C'est ça. Et ça a été redit par Nicolas Maduro lui-même à la clôture donc du sommet de la COP27 qui a dit effectivement c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est bien de ça qu'il s'agit. Et puis je m'arrête puisque j'ai abordé cette question de l'intervention des Sud-Américains dans ce débat. Alors il y en a eu d'autres, parce que je vais vous citer la première ministre, une dame qui est des Barbades. Alors, vous voyez, les Barbades, alors c'est un petit pays, donc petite île des Caraïbes, qui se permet, parce qu'elle dit, elle se permet de parler haut et fort, hein, elle est travailliste, là. Elle dit, le monde dans lequel nous vivons est très semblable à celui de l'ère impériale. Le sud du monde est sous les dépend des projets de ceux du nord. Nous savons ce que nous avons à faire et nous avons maintenant la volonté politique de le faire. Alors vous voyez une dame qui s'appelle Mia Mottley, donc toute petite sur la scène internationale, les Barbades, qui dit « Non, on vous connaît maintenant et on n'accepte plus et on va décider de prendre nos affaires en main et de ne pas se laisser faire. » Alors ça, c'est frappant. Et Maduro, ah oui, c'est énorme. Ah. Et Maduro, qui était là, donc qui a au passage tiré un coup de chapeau à Fidel et à Chavez, a dit ce que nous allons vers, c'est un système contre lequel nous combattons, qui exploite les êtres humains et qui ne considère pas leur responsabilité éthique de respecter toutes les formes d'existence. Le capitalisme voit les ressources des autres cultures comme il voit la vie, que la vie est sacrée. Et sans cette autorisation à posséder et à détruire tout ce qui importe sur le sol, il favorise l'accumulation du capital. Voilà ce qui les intéresse. Ça, c'est ce que dit Maduro. Maduro tient un discours ultra, ultra révolutionnaire à sa façon. Il dit, mais je sais que vous êtes là pour me piller. Alors, pourquoi, au passage, je le dis, Monsieur Macron a été aimable avec Monsieur Maduro. C'est que Monsieur Macron, qui, vous savez, dans la recherche de pétrole et de gaz de façon frénétique, il court partout, et il ne trouve pas forcément, d'ailleurs. Bon, Monsieur Macron a essayé de dire, bon, on va être plus gentil avec Maduro, parce qu'après tout, le pétrole du Venezuela, si on n'a pas le pétrole russe, ça pourrait nous arranger. Hein. Alors l'autre le voit venir, il lui a dit, dites, vous ne vous souvenez pas que vous avez reconnu un certain monsieur Guaido comme chef d'État du Venezuela ? Vous n'avez pas honte ? Hein. Alors il lui a pas dit ça comme ça, hein, mais il a dû le penser. Disant, donc voilà, vous pouvez attendre mon pétrole, on verra bien. Sous-entendu, peut-être, si vous en avez besoin, on vous le fera payer le prix que vous méritez. je ne sais pas. Et ça, c'était donc le hors-d'œuvre. Mais ce qui est arrivé comme le point le plus important, c'est la position de M. Gustavo Petro, le nouveau président colombien. Alors, je signale que depuis qu'il est élu, il y a très peu de temps, il a fait d'énormes pas dans le sens d'un changement d'orientation de son pays, qui est donc considéré comme la base militaire et politique des États-Unis en Amérique latine. Bon, il a fait d'énormes changements. D'abord, il a réouvert des relations diplomatiques, échanges d'ambassadeurs, visites officielles avec le Venezuela, son voisin. Et puis, il a une attitude intéressante. Ça, c'est une attitude d'homme, une attitude, j'allais dire, éthique. C'est-à-dire qu'au moment de la photo donc de la fin de la COP27, qui réunissait tous les chefs d'État ou de gouvernement présents, il a dit « Non, mais moi, je ne veux pas être sur la photo. Je ne viens pas pour la photo. Je viens pour avancer un certain nombre d'objectifs. La publicité, ma trombine sur les écrans, ça m'intéresse. » Et il a énoncé 10 principes qu'on peut... comme les principes, disons, à la fois de l'humanité pauvre, enfin des pays les plus pauvres, et puis les principes qu'on retrouve un peu dans l'approche par rapport à Gaïa, la Terre-mère, les rapports entre l'espèce humaine et son support terrestre. Et il a formulé comme ça 10 objectifs dont je formule l'essentiel. L'humanité doit savoir que la politique mondiale, c'est que si la politique mondiale ne domine pas la crise climatique, elle disparaîtra. Le marché, alors ça, bon, on peut dire que c'est une phrase très générale. Le marché n'est pas le mécanisme principal pour dominer la crise climatique, c'est l'accumulation du capital qui produit la crise. Donc, il met en cause le rôle du marché. La planification publique, globale et multilatérale est nécessaire pour une économie mondiale décarbonisée, comme on dit. Je le lis depuis l'Italie, excusez-moi. Bon, ce qui dit, alors, la planification publique mondiale globale, ça veut dire, c'est bien joli la COP27, où chacun vient avec ses arguments, ses demandes et tout, mais où chacun, à la limite, on l'a vu pour un certain nombre de pays, et en particulier pour les pays développés, annonce qu'il va faire des choses et ne les fait pas. Donc quand Gustavo Petro dit « il faut une politique mondiale globalisée », ça veut dire qu'il pense qu'il faut un organisme mondial qui prenne en main cette question de la crise climatique et qui donne des ordres, hein, quand je dis planification, qui donne des ordres à tous les gouvernements, en commençant évidemment par les plus polluants. Bon, alors, c'est très très ambitieux, mais en fait, ça va au cœur de la question. Et lui-même dit, là, un peu plus loin, il dit que c'est à l'ONU, c'est l'ONU qui devrait être en capacité de faire ça, de dire, effectivement, maintenant, les petits-enfants, c'est joli, chacun dit que c'est la faute de l'autre, etc., ou chacun va polluer le voisin, c'est plus possible. Donc il faut une planification. C'est l'avenir de l'humanité dans son ensemble qui est en jeu. Il faut une politique planifiée, globale, de toute l'humanité. Pas simplement chacun qui arrive, moi j'ai fait un petit quelque chose, puis voilà, puis je ne ferai peut-être pas tant la prochaine fois. Ça, c'est plus possible. Hein? Il explique, enfin après il parle plus précisément des organismes internationaux qui là aussi doivent dominer leur façon de faire, c'est-à-dire de faire des arbitrages entre les différents pays qui sont autour de la table pour pas fâcher tout le monde. Hein. Là aussi, cette idée de planification globale centralisée devient une question centrale et elle est justifiée. Dans la mesure où effectivement on dit n'importe quel humain des 8 milliards dont on parlait, qui est victime de la crise climatique, a droit à une réponse collective puisqu'il s'agit de sauver l'humanité. Ou alors, si ce n'est pas ça le problème, c'est qu'on nous ment à longueur de temps. Ouais. C'est que ce n'est pas vrai, c'est qu'il n'y a pas de crise. Alors, en fait, c'est vrai, mais ceux qui, à la fois, parlent de la crise climatique et ne font pas assez ou ne font pas trop et ne donnent pas d'argent à ceux qui en souffrent, c'est cela dont il faut changer la politique et l'attitude. Voilà. Donc je signale ce texte de Petro dont je pense qu'Omaguer assurera une traduction et parce qu'il mérite en tant que tel. Il y a 10 points, c'est tout à fait important. Et ça s'inscrit bien dans la vision de ce personnage qui arrive avec toute sa modestie. Il a la chance, moi j'avais un peu peur quand je l'ai vu arriver au pouvoir, sachant que la facilité, le ressort de la gâchette colombienne, des escadrons de la mort et tout, il ne va pas tenir 15 jours. Et en fait, bon, il est toujours là et il est tellement content et sûr de lui, parce que ça fait longtemps qu'il se prépare, il avait perdu une précédente élection présidentielle et tout. Et il est suffisamment appuyé donc, par ses voisins, en particulier donc, le Venezuela tout de suite et le Brésil de Lula tout de suite après, pour se sentir fort et articuler ce discours qui est un discours de rupture avec l'ordre du continent latino-américain. C'est tout à fait clair. Et un discours de rupture avec ce qu'a été la Colombie depuis 1948 jusqu'à cette année. C'est-à-dire un vassal et un laquais de la politique américaine. Bravo oui. Petro, hein, bravo Gustavo Petro. Qu'il se protège bien. Alors je pense qu'il connaît la musique, il connaît l'endroit, mais ça reste probablement un endroit dangereux. Et je n'ose pas imaginer, ça serait trop beau, que les escadrons de la mort et la bande à Uribe aient abandonné toute ambition, aient abandonné le goût du sang qu'ils portent comme instrument du pouvoir. Bon.
Il y a des bases américaines aussi.
Oui, ils ont 7 bases américaines. Alors, il s'en est pas pris aux États-Unis directement. Non, mais effectivement, il annonce un programme politique de rupture, c'est tout à fait clair. Mais il s'en est pas pris directement à l'adversaire stratégique. Hein, parce qu'il pense peut-être que c'est trop lourd pour lui. Et il attend probablement qu'au moins que Lula soit bien installé au pouvoir. Il attend peut-être que ça se clarifie du côté de l'Équateur. Enfin, il attend peut-être une situation encore plus ferme. Il sait que Cuba, bon, c'est un soutien acquis, il n'y a pas de problème, pour aller plus loin en disant maintenant on n'a plus besoin des bases américaines. Ça, je pense que ça viendra. Mais là, le jour où il annoncera ça, il prendra des risques. On se souvient que Correa a été puni parce qu'il avait chassé les Américains de la seule et unique base qu'ils avaient sur le territoire équatorien. Voilà. Pour rendre hommage à Gustavo Petro, j'ai choisi une petite musique qui est donc d'un chanteur que vous connaissez, au moins les anciens connaissent. Il s'agit donc de Paco Ibáñez, qui chante une chanson...
Paco,
hein, qui chante une chanson « La poésie est une arme du futur ». Et je pense qu'à sa façon d'agir et de parler, Gustavo Petro a une vision de poète. C'est-à-dire il regarde l'avenir et il dit « Bon, j'avance, l'avenir, il est là, c'est un avenir éthique, c'est un avenir d'égalité entre les hommes, c'est un avenir de défense de l'espèce humaine, j'y vais ». Voilà, on écoute Paco Ibáñez.
Voici de Gabriel Celaya, une chanson. La poésie est une arme cargada de futur. La poésie est une arme chargée de futur, ou la poésie est une des armes chargées de futur. Voilà. Cette chanson elle a une grande importance parce qu'elle est écrite vers 1956 et c'est une chanson manifeste. Ça veut dire que c'est un moment donné où il y a des poètes qui ont pris une position. Et derrière Celaya, il y avait Goytisolo, il y a d'autres, il y a Ángel González, il y a d'autres poètes qui ont pris cette position. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, nous ne pouvons pas rester en dehors de la réalité, en dehors de tout ce qui nous empêche de vivre et de nous développer. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, quiero daros vida, provocar nuevos actos. Y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
Voilà, la poésie est une arme pour le futur, c'est ce que chante Paco Ibáñez. Et on partage son chant. Un mot pour parler du propos du secrétaire du Parti communiste ukrainien Piotr Simonenko à la 22e réunion des partis communistes et ouvriers qui s'est tenue à La Havane au mois d'octobre. Alors pourquoi il y était ? Parce qu'il n'est pas mort. Il n'est pas mort parce qu'au moment où il a vu que le Parti communiste ukrainien était interdit, il s'est enfui, il a réussi à passer en Biélorussie. Et puis, je ne sais pas où il habite pour l'instant, mais il n'y est plus. S'il reste, il reste probablement des militants communistes en Ukraine, mais je pense qu'ils sont ou morts ou dans la clandestinité. C'est la seule chose qui leur reste hein, pour l'instant. Mais il est venu quand même rappeler ou plutôt expliquer un certain nombre de choses. Et il a dit, je ne vais pas tout vous lire, il a fait une intervention très très longue et très construite parce qu'il il a une formation politique. Il dit, après la dissolution de l'URSS, ce sont les États-Unis et la Grande-Bretagne qui ont créé un État néofasciste sur le territoire de l'ex-Ukraine soviétique, devenant ses principaux sponsors et bénéficiaires. Les réformes qu'ils ont imposées à l'Ukraine ont donné au capital le contrôle de toutes les sphères de la vie sociale et ont assuré le contrôle total des multinationales sur la vie socio-économique du pays, créant ainsi la base matérielle de l'avènement et de l'affirmation, après le coup d'État armé de février 2014, du pouvoir des forces les plus réactionnaires, la bourgeoisie comprador. Donc c'est une bourgeoisie qui vend ses biens ou qui s'allie avec le capital étranger pour maintenir sa position, s'est alliée au néofascisme et au crime organisé. Ce sont ces forces en Ukraine qui ont détruit toutes les conquêtes sociales, la souveraineté économique et conduit à une profonde lumpenisation, hein, donc lumpen, le lumpen prolétariat, donc le sous-prolétariat, de toute la société. Et il rappelle... L'humanité a déjà été entraînée dans une nouvelle guerre mondiale. Je voudrais faire un des nombreux parallèles tragiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a travaillé pour Hitler dans la guerre contre l'URSS. Aujourd'hui, agissant dans l'intérêt des États-Unis, l'Europe fournit des armes au régime pro-fasciste ukrainien et le renforce financièrement. La poursuite de cette politique conduira inévitablement à l'extension du théâtre des hostilités au territoire de l'Union européenne. Les tentatives agressives de certains nouveaux pays européens, en particulier la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, les États baltes, de réviser les frontières de l'après-Seconde Guerre mondiale ne feront qu'accélérer ce processus. L'ancienne ministre roumaine des Affaires étrangères, Mme Marga, a récemment déclaré sans ambages « L'Ukraine est située à l'intérieur de frontières artificielles, il devrait céder des territoires, la Transcarpathie à la Hongrie, la Galice à la Pologne, la Bukovine à la Roumanie, ce sont des territoires d'autres pays. Bon. » Et il poursuit dans ce sens-là en disant « Attention, c'est très très dangereux ce qui est en train de se passer, rendez-vous compte. Hein. » Non seulement moi en tant que responsable d'un parti communiste, bon, je risque ma vie mais je savais ce que je faisais, mais le pays est dans un état dramatique et surtout il est au centre d'une crise qui va affecter principalement l'Europe. C'est là-dessus que j'insiste et que je m'arrête parce que les ficelles sont tirées à Londres et à Washington et c'est ici qu'on va avoir... l'hiver approchant, voilà, les plus grandes conséquences et l'inflation se poursuivre. Mais bien sûr, Ouais. On risque d'avoir des remises en question de situation. Alors sur l'inflation, juste un petit mot. Vous avez pas, enfin la France souffre pas trop, hein, j'insiste, mais vous avez des pays de l'Union européenne où l'inflation a atteint 18%. Je veux parler des Pays-Bas. Quand on est à près de 20% d'inflation, toutes les économies familiales d'entreprises sont remises en cause. Et donc c'est dramatique. Hein. La France, du fait qu'elle a pris un certain nombre de protections à coups de milliards qu'il faudra rembourser plus tard, mais pour l'instant, ce n'est pas le souci qu'ils ont, elle a pris un certain nombre de protections et elle est relativement, dans l'Union européenne, le pays le moins touché par la hausse des prix. au niveau dont on le sait, 6-7%. Les autres sont bien au-delà, hein, vu pour aller au maximum qui est les Pays-Bas à 18%. Mais je ne m'arrête pas là-dessus, on aura l'occasion d'en reparler parce que de toute façon, ça va s'approfondir pendant l'hiver. Bien. Et je vais finir par vous parler quand même, il faut parler du G20. Du G20, puis c'était l'autre grande réunion, c'était la plus importante, en fait, symboliquement, donc, qui s'est tenue à Bali, en Indonésie.
10%.
Et dont on ne vous a parlé que pour dire que dans la déclaration finale, il y avait eu une critique de la Russie. Bon. Alors, je vous signale que la déclaration finale compte 18 pages et autant de paragraphes que de sujets abordés. Et que l'Indonésie a réussi, ce que je considère comme un tour de force diplomatique, à éviter que les discussions s'arrêtent et qu'on ne parle que de la situation en Ukraine, puisque dans le communiqué final, il est clairement dit que le G20 n'est pas un endroit compétent et destiné à régler un conflit diplomatique entre des participants. L'ONU est faite pour ça, et les juridictions internationales, etc. Et la diplomatie. Bon. Et donc ils ont réussi quand même à faire travailler pendant plusieurs jours toutes les délégations qui étaient là, sur les sujets qui intéressent le G20. C'est-à-dire, ils avaient un mot d'ordre, être plus cohérent pour sortir plus fort de la crise. Parce que le bilan de la période qui s'est clôturée à cette réunion du G20, c'était la période du Covid, suivie de la dislocation de ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement, enfin, des complications économiques liées à la crise du Covid, c'est-à-dire les flux interrompus, les ports fermés, enfin, on sait tout ça. Hein. Et dit, donc le thème général de la réunion du G20, tel que l'avait voulu l'Indonésie, c'est-à-dire sortir ensemble de la crise et mieux organiser pour faire face à d'éventuelles nouvelles crises qu'on n'exclut pas. Mais il ne s'agissait pas du tout de régler le conflit ukrainien. Il y a dans le paragraphe qui parle du conflit israélien, on dit que ça a un peu compliqué les choses, mais ça n'a fait que continuer ce qui était déjà largement à l'œuvre avec la crise d'épidémie, les inégalités entre les pays riches et les pays pauvres qui s'étaient accentuées. Et ils insistent en disant le bilan qui a été fait par les pays du tiers-monde, parce que j'utilise un vieux vocabulaire, enfin, les pays les plus pauvres, de la gestion de la crise sanitaire, est un bilan très, très négatif. C'est-à-dire qu'on a parlé qu'on allait avoir des mécanismes solidaires et tout. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire que les pays qui ne pouvaient pas s'acheter des vaccins très chers n'en ont pas eu, ou très, très peu. Hein. Donc ils disent là-dessus, c'est plus possible de continuer comme ça. Les crises épidémiques, il y en aura d'autres, que ce soit un Covid amélioré ou affaibli, peu importe. Il y en aura d'autres. Et là, il faut qu'on ait une réponse qui soit mondiale, collective, où tout le monde participe et où ce ne soit pas simplement des jeux et que pratiquement ceux qui ont l'argent se soignent eux-mêmes et puis oublient de soigner les autres. Bon, ça revient. Donc vous voyez, c'est un peu le même discours que celui qui s'est tenu à Sharm el-Sheikh sur d'autres terrains qui sont ceux du G20. C'est le terrain économique. Ça, c'est très, très, très... Donc ils ont abordé tout. Alors je vous fais grâce donc, des 17 pages du communiqué du G20, qui sont intéressantes, mais il n'y a pas de version française pour l'instant, mais il est passionnant. Donc tous les sujets ont été traités, la santé, le climat, les problèmes de la digitalisation pour les économies et pour les pays les moins riches, hein, qui posent un vrai problème, c'est-à-dire l'accès à l'ordinateur, la capacité de formation, la capacité à maîtriser cet outil-là, parce qu'effectivement, on voit bien qu'il se généralise. Le respect de la biodiversité, parce qu'il faut savoir que la biodiversité, elle souffre surtout dans les pays où il y a des gens qui viennent faire leur saleté. On revient aussi à la COP27. Hein. La biodiversité, elle souffre aussi en Amazonie, parce qu'on coupe le bois, etc. etc. Hein. Elle joue en Afrique de la même façon. Et puis, ils ont parlé, j'ai retenu quelques... Donc, ils ont parlé de l'éducation, bien sûr, des problèmes de genre, tout ça. Enfin, tous les sujets importants étaient abordés. Et ils ont insisté, enfin, la déclaration finale insiste sur le fait que, vous savez, l'ONU avait fixé pour 2030 une série d'objectifs de développement soutenable. Et la position de l'Indonésie et la position du communiqué final, c'est de dire que on n'y est pas vraiment. Hein, et parti comme on est avec le Covid et ses suites et la rupture des chaînes d'approvisionnement, c'est pas du tout évident qu'on arrive aux objectifs de 2030 de développement soutenable, durable ou soutenable. Bon. Ce qui serait quand même l'intérêt collectif de la totalité de l'humanité. Donc c'est un petit signal qu'ils envoient à l'ONU en disant hein, « on a tous signé ça, maintenant il faudrait qu'on y arrive hein, ». Et on a perdu au moins 2 ou 3 ans et on n'est pas allé dans la bonne direction. Et j'ai retenu, parce que ça me touche particulièrement, la question des migrants. Qu'ils abordent en disant « il faudrait qu'il y ait une approche avec des droits ouverts clairement, c'est-à-dire une approche correcte, préalable, qui ne soit pas un bricolage de législation, on le connaît en France, mais on n'est pas les seuls à le connaître, législation qui s'accumule, qui se contredisent, qui se surimposent les unes aux autres, où finalement on n'y comprend plus rien, mais surtout, et la phrase est très très importante, quel que soit le statut du migrant, c'est-à-dire, j'insiste là-dessus, car vous savez sans doute qu'en France, on va réussir à faire rentrer un certain nombre de migrants parce qu'ils ont le statut de réfugié politique, mais le statut de réfugié économique, c'est-à-dire je meurs de faim, je m'en vais de chez moi, n'existe pas. Hein. Et donc ce statut, qui n'existe pas, permet à la République française, et ça se passe de la même façon dans d'autres pays de l'Union européenne, vous mourrez de faim, et bien tant pis, rentrez chez vous, mourir voilà. Un peu plus vite.
Hein. Rentrez en Afrique.
Voilà, c'est ça, et rentrez en Afrique. Hein, ça a été dit à l'Assemblée nationale il n'y a pas si longtemps. Ouais. Donc quand le G20, alors c'est le G20, c'est des chefs d'État et de gouvernement, dit quel que soit le statut du migrant, il doit y avoir une reconnaissance du migrant en tant que tel, il est parti, on ne part pas pour... Ou alors, il est parti parce qu'il a un boulot dans une multinationale qu'il a muté, on parle pas de ça, mais le migrant qui s'en va parce qu'il est malheureux chez lui, parce qu'il mange pas, parce qu'il est maltraité, et pas simplement parce qu'il est militant politique et qu'il a été mis en prison, qu'il veut pas y aller, bon, c'est beaucoup plus large. Et ils disent, on veut un statut, une approche globale du statut du migrant sur la planète. Bon. C'est donc une défense des populations du tiers-monde qui disent, quand on est obligé de partir pour sauver sa peau, on s'en va. Hein, et ça, simplement ça, le fait de devoir partir pour sauver sa peau, ça mérite le respect de ceux qui ont de l'argent. C'est très, très important. Alors, vous voyez, dans ce...
C'est de 10... la part de ceux qui ont de l'argent.
Voilà. Ouais. Oui, de là où ils vont.
Oui. Hein, ben, oui, oui.
C'est bien. Et en plus, alors, c'est vrai, et sans l'être complètement, vous savez qu'il y a une bonne partie des migrations dont on parle ici, abondamment, ça se fait d'un pays à l'autre. Beaucoup de gens ne font pas, heureusement pour eux, d'une certaine façon, 10 000 kilomètres pour trouver un lieu d'asile. Hein. Mais donc, vous voyez, il y a des approches très, très intéressantes sur tous ces sujets-là. Et je voulais souligner, alors deux choses, c'est que ce qui a pesé, alors ça c'est dans la COP27, j'ai oublié de vous le dire, ce qui a pesé dans les débats de la COP27 pour dire il faut qu'il y ait un fonds, c'est la question des inondations au Pakistan. J'en dis deux mots parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Les inondations au Pakistan ont fait en gros 25 millions de réfugiés de poids. Bon, il y a 1/10 de la superficie du Pakistan qui a été ravagée par les eaux. Il y a des milliers d'hectares de cultures de céréales qui ont été ravagées aussi. Donc, et il paraît que la délégation pakistanaise ne s'est pas fait faute de dire ce qui s'était passé. Et on a dit, tout ça peut arriver dans n'importe quel pays maintenant du fait de la crise climatique. Et c'est pour ça que le projet de créer ce fonds de soutien aux dégâts de la crise climatique a été fortement appuyé indirectement par la situation pakistanaise. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Et je vais finir en annonçant qui se sont... Bon, le G20 s'est beaucoup préoccupé des petits pays, des îles par exemple, des pays les moins développés, de l'Afrique en tant que tel. Et puis il a décidé, c'est très très symbolique, de qui organiserait les prochains G20. En 2023, ce sera l'Iran. En 2024, ce sera le Brésil. En 2025, ce sera l'Afrique du Sud. Et regardez bien les noms. Inde, Brésil, Afrique du Sud... sont 3 des 5 pays du BRICS.
Ouais. Ah, Inde, pas Iran.
Oui, non.
Non, l'Inde, il n'y est pas.
Non, tu as dit, en 2023, ce sera l'Iran.
L'Iran, pardon.
Oui, l'Iran.
L'Iran, pardon.
4, après, c'est le Brésil.
Alors, j'ai peut-être mal écrit. Non, c'est peut-être l'Inde. Oui, pardon, on a fini.
Oui, ça doit être.
Oui, oui. C'est peut-être, ça doit être l'Inde. Hein. Oui. Ça doit être l'Inde. Donc, vous voyez, il y a une prise en charge des affaires du monde à travers le G20 par les pays de la BRICS. Ce qui explique pourquoi les BRICS se sont de plus en plus sollicités pour ouvrir leurs portes à des nouveaux. Bon, ceci nous explique toute une série de choses, même si ça ne va pas être évident, parce qu'on ne rentre pas dans les BRICS comme on rentre dans un grand magasin. Il faut un minimum d'accord sur les objectifs que l'on poursuit en commun. Voilà ce que je voulais dire sur ce G20 passionnant. Je ne vous invite pas à lire les 17 pages de la déclaration finale, c'est très intéressant, mais retenez simplement cette idée centrale que la question de l'Ukraine a été évacuée en disant oui, d'accord, c'est pas le seul problème, et de toute façon, on a des objectifs sur la vie commune de la totalité de la planète, et c'est de ça qu'on se préoccupe. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se réunissait. Hein. Oui. Donc ne changez pas les objectifs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les pays du G7 ont mené une vie épouvantable à toutes les autres délégations et aux organisateurs indonésiens pour qu'on ne parle que de l'Ukraine.
Oui, très bien.
Voilà. Donc, on n'a pas parlé que de l'Ukraine, et c'est tant mieux. Donc un coup de chapeau à l'Indonésie, oui, et longue vie à l'Indonésie. Voilà. Oh. Merci, Sidi,
merci,
et à la semaine prochaine.